Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Révolution, une histoire qui nous conduit jusqu'aux étoiles. Comment observer les révolutions, sinon avec une longue vue? Quoi de mieux pour observer ce long mouvement en courbe fermée et le temps nécessaire pour effectuer ce mouvement? Car l'histoire est une réflexion sur le temps qui passe, celui du présent qui interpelle le passé, celui du passé qui surgit dans le présent avec, pourquoi pas, la possibilité de penser l'avenir. Oui, c'est une histoire d'étoiles et de constellations qui s'offre à nous.
Il semble qu'à la faveur de la révolution politique, tout le fondement social soit remis en cause.
À la matina.
Nous n'avons rien à craindre de la guerre, car elle seule peut purger la France du despotisme qui l'étouffe. Espérez-vous d'un souffle détruire l'aristocratie, tous ceux qui s'opposent à la révolution?
Non! Messieurs!
Une véritable bataille rangée.
Messieurs!
Les étudiants attaquent à coups de pavé. Et les policiers répliquent avec des grenades lacrymogènes. On ne peut plus respirer.
Ce n'est pas une révolution que de la jeunesse. C'est tout le peuple qui souffre.
La révolution cubana las impulsaba al combate, gritándoles, se maduran en el camino las condiciones.
Nous voulons la même chose qu'en Tunisie et en Égypte. Nous voulons des élections libres, une vraie démocratie. Nous voulons choisir notre gouvernement.
La liberté aussi.
Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez.
La France révolutionnaire.
Peuple.
Sauve la lucha révolutionnaire.
Ne crains plus leur complot sacrilège.
Perdio à la révolution.
Des tas de révolutions évoquées ici pour cette émission Le cours de l'histoire en public, en direct des rendez-vous de l'histoire à Blois. Bonjour Ludivine Pontigny.
Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et à tous.
Ce mot de révolution a un destin étonnant. Déjà, on peut le penser aujourd'hui. Révolution aujourd'hui, c'est un mot que l'on retrouve dans la publicité.
Oui, ça c'est une manière, on va dire, d'énerver le mot, c'est-à-dire de lui ôter les nerfs, de lui enlever les nerfs. Et donc, oui, il y a des usages complètement détournés qui rabougrissent en quelque sorte ce vocable si important sur le plan de notre histoire.
Et d'ailleurs, c'est étonnant que notre président de la République, Emmanuel Macron, ait choisi ce mot « révolution » comme titre d'un de ses livres. Non mais parce que quelqu'un qui est au pouvoir, on ne l'imagine pas associer la révolution, vu que c'est lui-même qui est au pouvoir. C'était très intéressant, là c'est dans la même idée, c'est enlever au mot son sens de changement.
Oh, merci de nous parler d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il nous manquait. Oui, alors, c'est vrai que c'était étonnant ce livre de campagne dont vous vous souvenez sans doute, Révolution, pour un programme qui est tout sauf révolutionnaire, hein, quoi qu'on en pense. Voilà, il y a une dimension plutôt de retour vers une matrice néolibérale. Donc, c'est très intéressant, en effet, de voir qu'il y a une manière de disqualifier le mot, de lui faire perdre son sens et sa consistance, en quelque sorte son intensité, en particulier historique.
Avec nous aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, Malika Rahal, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la révolution pour vous?
Alors c'est intéressant parce que dans l'ouverture du livre, on discute de différentes définitions. Et du coup, comme je vais parler un peu de mon terrain algérien, je vais partir d'un autre sens que celui de la rotation, du sens circulaire. Je vais partir du sens en arabe, thawra, qui est lié plutôt au fait que, par exemple, le sable se soulève et que après la révolution, il y a du coup tout un temps parfois assez long, pendant lequel il se dépose ensuite.
Oui, il y a vraiment cette idée-là de temps avec ce mot de révolution. Bonjour Quentin de Lermoz.
Bonjour.
La révolution pour vous. Parce que c'est vrai que ce mot, et je l'évoquais pour ouvrir cette émission, ce mot nous vient quand même de l'astronomie. Il y a cette idée de retour en arrière, ce qui est un paradoxe sans nom, hein, d'ailleurs, que la révolution, c'est le retour au point de départ, quelque chose qui est révolu. D'ailleurs, dans le livre, on apprend que révolution, révolu, c'est de la même famille.
Oui, ce changement du mot, en fond, c'est la meilleure trace de l'énorme transformation qui s'est opérée au XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, le mot révolution au sens astronomique, c'est le sens ancien qu'on utilise dans ce qu'on appelle pas encore l'ancien régime, évidemment. Et c'est avec la révolution anglaise, tout d'abord, 1688-1689, qu'on commence à voir dans la révolution l'idée de quelque chose qui se rompt et qui s'ouvre. Et c'est surtout avec la révolution française que là, le rapport au temps est complètement transformé. Alors, les historiens ont des mots compliqués, ils aiment bien parler de régime d'historicité. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se casse dans le rapport entre présent, passé et futur. Le passé s'éloigne, le présent se réduit et le futur s'ouvre en grand sur un avenir de progrès. La révolution naît avec ce nouveau rapport au temps qui est un peu moins le nôtre aujourd'hui, mais le concept reste extrêmement actif comme on va le voir aujourd'hui.
Chloé Drieux, bonjour.
Bonjour.
Bah, pour vous aussi, c'est quoi la révolution? Alors vous nous conduisez plutôt au début du XXe siècle, nous sommes en 1917, avec, alors là aussi, une année de révolution, mais c'est toujours une question de temps, de quelle révolution parlons-nous, hein? Il y a celle de février, celle d'octobre, et vous nous dites, non, c'est plus compliqué.
Oui, donc moi je me suis plutôt focalisée sur la révolution de février qui semblait très importante pour les élites locales à la fois Caucase et Asie centrale parce que c'est un renversement des structures coloniales et la fin du régime colonial. Et le début de nouvelles espérances qui vont être déçues très rapidement.
Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Hein. La révolution, on va en parler longuement dans cette histoire globale des révolutions qui est publiée à La Découverte. Ludivine Bantigny, dans cette idée de révolution, on sent que ce mot prend le sens de changement à un moment donné. Il y a toujours cette temporalité qui nous intéresse. Ce mot révolution, c'est un mot malgré tout très compliqué à manier, très compliqué à utiliser. Et l'histoire ici est globale des révolutions, le pluriel est important, pour bien montrer que tout ça ne se réduit pas à la révolution qui serait un phénomène type.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous distinguons des situations révolutionnaires qui peuvent être donc des soulèvements populaires. Il faut qu'il y ait du peuple pour qu'il y ait un processus révolutionnaire. Toujours dans l'espérance d'émancipation, de justice, d'égalité, c'est la question de la souveraineté qui est en cause et la légitimité même à gouverner. Donc les situations révolutionnaires qui débouchent ou non sur des révolutions. Et donc ce qui nous a beaucoup importé dans le livre, histoire globale, on fait de l'histoire transnationale, connectée, impériale, parce qu'on a voulu décaler le regard par rapport aux révolutions que nous connaissons et qui nous sont davantage familières, pour démontrer justement, d'une part, la grande diversité de ces soulèvements populaires qui peuvent déboucher sur des renversements de pouvoir et même de structures sociales, de rapports de production, de rapports à la propriété et à la distribution des richesses, mais aussi pour nous indiquer que finalement, cette histoire, elle est longue et elle est sans cesse plus intense, y compris quand on va vers le XXe siècle. Contrairement à un regard un peu intuitif qu'on pourrait avoir, en particulier ici, un regard franco-centré, on se dit, voilà, les révolutions sont surtout celles du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors que le XXe siècle connaît, justement, et en particulier dans le second XXe siècle, entre 1945 et 1991, une véritable constellation révolutionnaire, marquée par l'anticolonialisme, par l'anti-impérialisme, donc par de nombreux soulèvements, qui renverse le joug colonial, le joug impérial, et qui nous mène jusqu'à nos jours, parce qu'une autre constellation révolutionnaire, nous l'avons connue ces dernières années, et donc ça montre que, pour reprendre le dernier mot du livre, l'histoire de la révolution persiste.
Voilà, parce que cette révolution qui nous intéresse nécessite un regard qui vient d'ailleurs, un regard pluriel. Et là, Malika Rahl, le cas algérien est très intéressant, nous parlons de guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie, oui. Oui, mais pourquoi pas de révolution?
Oui, c'est intéressant de voir que dans le reste du monde, quand même majoritairement, on considère que ce qui se passe en Algérie est de toute évidence une révolution. Alors vous avez beaucoup de discussions assez savantes pour savoir, est-ce que ça a changé en profondeur les structures de la société? Est-ce que vraiment il y a eu une modification? Il y a quand même peu de pays qui ont connu une révolution aussi tranchée et finalement aussi absolue en termes de transformation, par exemple, total de ou quasiment total de la propriété privée par exemple, avec un changement de régime, avec une algérianisation extrêmement rapide, le tout au fil d'une guerre longue et qui est marquée par une implication de plus en plus forte de la population, avec ce dont parlait Ludivine à l'instant, qui est vraiment l'émergence du peuple dans la rue à partir de décembre 1960 et puis jusqu'à l'indépendance de 1962. Mais ce qui était aussi intéressant comme expérience qui nous a été proposée dans ce livre, c'était le fait de travailler à l'échelle africaine et de montrer que on pouvait parler de pays très très différents. L'Algérie avec sa révolution très profonde qui devient vraiment un modèle pour le continent, mais aussi quand même dans l'ensemble pour les pays du tiers-monde. Des pays avec des indépendances fort peu révolutionnaire, comme par exemple le Cameroun d'Ahmadou Ahidjo, par exemple, mais de montrer que malgré ces différences, il y a quand même, dans les années 60 et les années 70, sur l'ensemble du continent africain et même au-delà, un souffle, une inspiration, des images qui vont circuler, des mythologies, des phrases ou des images qui instantanément vont devenir, vont circuler, vont devenir des icônes. Je pense à Lumumba faisant son discours devant le roi des Belges au moment de l'indépendance. Je pense par exemple à la phrase d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée préfère la pauvreté dans la liberté plutôt que la richesse dans l'esclavage, qui instantanément deviennent des slogans qui vont circuler en Afrique, et que même dans des pays qui n'ont pas connu des indépendances aussi profondes, aussi radicales, où la puissance coloniale va maintenir une emprise très forte, ce souffle révolutionnaire n'est pas absent.
Ouais, souffle révolutionnaire avec ce mot, vous êtes la première à l'avoir prononcé, Malika Ral, le peuple. Bah, parce que là aussi, nous avons... il a été prononcé là depuis...
Oui,
si, il avait été dit, vous l'aviez dit.
Non, mais parce que... Ça fait partie de la définition. En fait, une révolution, par exemple, nécessite qu'il y ait soulèvement populaire, qu'il y ait du peuple, une population qui se transforme en peuple au sens de catégorie politique agissante. Un coup d'État militaire opéré par la seule armée ne saurait constituer une révolution.
Mais voilà, non, mais c'est pour ça que...
On est d'accord,
ce que j'allais dire. Autre notion difficile à manier, c'est celle de peuple. Quant à un de leurs mots, ce peuple-là, il a été beaucoup fantasmé, réfléchi au 19e siècle notamment, mais il est difficile à définir. Le peuple fait la révolution, soit, mais quelle révolution ? Est-ce une révolution d'élite ? On vient de le dire, quand c'est l'armée qui fait un coup d'État, ce n'est pas une révolution.
Oui, tout à fait. Alors en fait, la notion de peuple n'est pas vraiment un problème. Le problème, c'est qu'on a essayé de l'essentialiser, c'est-à-dire de savoir à l'avance ce qu'allait être ce peuple. Mais quand on ouvre les phénomènes révolutionnaires à l'échelle globale, on se rend compte que les types de populations qui s'engagent, la diversité sociale, la diversité en termes de genre, la diversité en termes d'origine, est extrêmement variée et les croisements qui se font sont chaque fois inattendus. La révolution, c'est une dynamique qui produit des croisements entre types de secteurs et de groupes sociaux qui ne sont pas attendus. Donc le peuple, c'est l'ensemble des personnes qui se rejoignent dans cette dynamique-là et qui se proclament peuple et qui sont reconnus comme tels, ce qui leur donne une part de la puissance politique, donc de la capacité de transformation. Ce qui fait qu'au fond, on peut avoir des peuples extrêmement variés, y compris dans un même pays, et d'un espace à un autre. Donc c'est cette notion, en fait, c'est une des notions qu'on met très en avant dans le livre, c'est la notion de protagonisme, c'est-à-dire la façon dont des individus qui sont a priori absents des questions politiques, au moment de l'événement révolutionnaire, c'est très net pour la Révolution française par exemple, vont se découvrir d'un seul coup acteurs de l'histoire. Donc l'historien Amy Burstein a étudié ça. Des cuisiniers, des tanneurs vont envoyer des lettres aux autorités révolutionnaires en disant voilà, je suis un acteur de l'histoire, reconnaissez-moi comme tel. Et ce processus-là, alors qui pendant la Révolution française va même donner lieu à une économie de la reconnaissance, c'est-à-dire que les autorités vont jouer dessus pour essayer de se maintenir, on le retrouve dans toutes les dynamiques révolutionnaires. Et par exemple, on en avait discuté, parce que le livre est aussi interdisciplinaire, on fait appel à beaucoup de disciplines. On en avait discuté avec Alexandra Goujon, qui est une spécialiste de la révolution de Maïdan en 2004. On avait parlé de cette notion de protagonisme. Mais tiens, c'est amusant parce que sur Maïdan, les gens, une fois qu'ils avaient fait la révolution, ils se prenaient beaucoup en photo avec leur smartphone en position héroïsante et je savais pas quoi en faire. Mais en fait, c'est exactement le même processus. Donc c'est cette dynamique par laquelle des individus se reconnaissent ensemble et comme peuple et qui se mettent en scène et qui agissent en son nom. Et à ce moment-là, on a une dynamique révolutionnaire. Qu'elles réussissent ou non, c'est pour ça qu'il fallait distinguer les révolutions des situations révolutionnaires. À partir de là, pour nous, ça nous intéressait.
Avec un lien entre toutes ces révolutions, c'est un peu ce que vous disiez pour l'Afrique, Malika Ral. On pourrait, Chloé Drieux, évoquer cela aussi pour l'année 1917. Tout ne se passe pas à Moscou-Saint-Pétersbourg en 1917.
Non, et c'est vrai que la situation révolutionnaire en Asie centrale et dans le Caucase est un peu particulière, parce que c'est une forme de révolution par proxy, en fait, par procuration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de soulèvement en 17 pour renverser les autorités coloniales locales, donc pour l'Asie centrale. Avant 17, il y a eu une révolte en 1916, mais qui peut être considérée comme une révolution manquée, parce qu'elle n'a pas mené au renversement des structures de pouvoir. Donc c'est les populations musulmanes du Caucase et d'Asie centrale, puisque c'est sur ces populations que je me focalise, ont hérité d'une situation révolutionnaire et ont dû faire un peu avec les moyens du bord. et n'ont pas vraiment réussi à tirer leur épingle du jeu.
Oui, on l'a évoqué, hein, ce mot révolution, il nous vient de l'astronomie avec ces astres qui font un mouvement et qui reviennent à leur point de départ. Et c'est pourquoi l'on retrouve l'idée de constellation, Ludivine Vantigny. La constellation, c'est ça, c'est que ces révolutions sont liées entre elles, non pas systématiquement parce qu'il y a des contacts, mais c'est ce souffle révolutionnaire qui fait qu'il y a un lien. La constellation des révolutions, c'est une idée très intéressante d'ailleurs dans le livre, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas obligé de les séparer les unes des autres et de faire un catalogue des révolutions. C'est pas du tout ce qui est fait dans cette histoire globale des révolutions.
Non, c'est pas un catalogue, c'est pas une encyclopédie. On le dit aussi, c'est ni un livre rouge, ni un livre noir. C'est pas un bréviaire ou un manuel de pratique révolutionnaire, mais c'est pas non plus un réquisitoire. On ne veut pas non plus faire une histoire tiède, hein, pour autant. Et donc, il y a vraiment une manière de rendre compte des subjectivités révolutionnaires. Voilà comment des peuples se font sujet de l'histoire. Et donc, on a parlé de constellation plutôt que de vague ou de cycle révolutionnaire parce qu'il nous a semblé intéressant d'identifier des moments au cours desquels il y a des circulations, des influences, des contacts. Il y a aussi, bah, tout simplement, en effet, des protagonistes qui sont des voyageurs, qui sont des passeurs de révolution. Donc, sans qu'il y ait forcément de modèle, c'est intéressant. Par exemple, tout à l'heure, Malika parlait de la Guinée, de Sékou Touré. On voit des femmes, d'anciennes ouvrières, teinturières, par exemple, comme c'est le cas de Mafori Bangoura, qui devient ministre. On a comme ça des changements radicaux dans les rapports sociaux de pouvoir et des systèmes de manière de puiser du courage, non pas à des modèles qu'il s'agirait de reproduire, par exemple Cuba, comme c'est bien montré dans l'ouvrage par Genia Paliraki et Raphaël Pédémonté, n'est pas un modèle absolu qu'il s'agirait d'imiter, la guérilla par le FOCO, le foyer révolutionnaire paysan, n'est pas là non plus un fétiche qu'il s'agirait d'imiter purement et simplement, mais constellation, parce que en effet, il y a des réseaux, il y a des effets d'écho entre ces soulèvement populaire et révolutionnaire.
Oui, la révolution n'est pas seulement la révolution française. C'est un phénomène beaucoup plus large avec, c'est vrai, on peut pas y échapper dans notre lecture, et vous l'avez bien dit tout à l'heure, qui est très franco-française de ces phénomènes-là, avec quelque part un peu de chauvinisme, je crois. La révolution ultime, la plus belle, la plus jolie, c'est la nôtre, c'est la révolution française. Mais à côté des révolutionnaires, il y a aussi des contre-révolutionnaires.
Le mérite de l'homme Tocqueville et du penseur Tocqueville, c'est qu'il était capable de comprendre à tout à la fois. Car c'est par là que Tocqueville échappe à toutes les définitions et qu'il sera toujours critiqué tout à la fois par le parti des conservateurs et par le parti des révolutionnaires. Aux yeux des conservateurs ou des réactionnaires, il est un traître ou, comme on dit aujourd'hui dans un français détestable, un capitulard, puisqu'il reconnaît que la révolution est faite et que l'ancien régime est mort. Aux yeux des révolutionnaires, il lui manquera toujours quelque chose, qui est la capacité d'illusion ou de foi. Étrange démocrate qui refuse le mythe révolutionnaire, étrange légitimiste qui accepte la mort de l'ancien régime, tel est Tocqueville.
Raymond Aron qui s'exprimait en 1963 à propos de Tocqueville. Pourquoi Tocqueville est intéressant dans cette histoire-là? Tocqueville, penseur au 19e siècle, d'une certaine forme de continuité entre ce qu'on a appelé l'ancien régime et puis l'après-ancien régime, ce 19e siècle qui puise tant et tant de choses dans cet ancien régime-là. Le moment révolutionnaire est un moment complexe ici parce que c'est une transition entre deux choses. Ce n'est pas le retour au point de départ, comme on l'a dit, mais ce n'est pas le passage dans un monde complètement différent. Quentin de Lermoz, Tocqueville.
Tout le monde se demandait qui allait répondre.
Il est si collé à Tocqueville.
Oui, alors en fait, ce qu'il se passe, c'est que la révolution, notamment la révolution française, mais on va revenir à Tocqueville, ouvre une brèche, on l'a dit, et cette brèche va mettre énormément de temps à se refermer. On a essayé de mettre en place une restauration en renouant la chaîne des temps, pour reprendre les termes de Louis XVIII, qui n'a pas fonctionné. Donc tout le XIXe siècle est un siècle d'expérimentation pour essayer de trouver des institutions qui correspondent au fond aux nouvelles légitimités, aux nouvelles formes de rapport de pouvoir, d'attentes citoyennes qui se sont ouvertes à ce moment-là. Et c'est dans ce cadre-là que sont nés les fameux modèles que le livre s'évertue à démonter, puisqu'au fond, ce que fait Tocqueville, c'est qu'il va opposer une démocratie américaine beaucoup plus mûre avec une démocratisation plus sociale en France, en opposant en quelque sorte la révolution américaine à la révolution française. Et on a encore cette idée aujourd'hui qu'on a une révolution américaine qui serait douce et une révolution française qui serait violente. Mais en réalité, ce que montrent les travaux sur la révolution américaine, c'est que cette révolution était extrêmement violente. Elle s'est soldée par une guerre avec les loyalistes, une guerre civile qui était terrible. Il y a eu une accélération des guerres indiennes qui s'est opérée à ce moment-là. Il y a eu aussi des formes d'émigration qui sont quasiment aussi importantes que celles qu'on a en France. Donc on a beaucoup construit de modèles, soit pour se rassurer, soit pour se faire peur, pour se repérer en quelque sorte dans cette inquiétude couvre le moment révolutionnaire. Donc la Révolution française était souvent associée à la terreur, donc comme quelque chose qu'il ne fallait pas répéter, ou alors comme une révolution qui allait instaurer une forme de constitution. Si on prend l'exemple de la Révolution jeune turque en 1908, on utilise le modèle de la Révolution française, on enlève ce qu'il y a de violent, on enlève le côté le plus anti-religieux pour garder la dimension constitutionnelle. Donc on a cette espèce de réappropriation continue, mais chacun de ces modèles ne résiste pas à l'analyse des faits. Ce qui est intéressant du coup, c'est que la grande ligne proposée par Tocqueville, elle est intéressante parce qu'elle est brillante intellectuellement, elle ne correspond pas à l'idée sur laquelle on aurait une révolution américaine douce et une révolution française violente. Donc tout est à refaire. C'est ce qui est intéressant dans l'histoire des révolutions, c'est comme les révolutions, elles ont modelé la grammaire historique moderne. Quand on touche et qu'on les déplace, tout est à repenser et à rebouger.
Et pour le cas algérien, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, ce moment révolutionnaire qui est une rupture majeure et un changement, mais un écho très lointain sur l'après-moment révolutionnaire. Cette révolution, comment on en sort, où elle va, et presque, on n'en sort presque jamais, parce que quel autre modèle a utilisé en construction à ce que l'on a réussi à repousser, à rejeter.
Je vais juste revenir d'abord un instant sur Tocqueville, parce qu'il y a un vrai révélateur pour Tocqueville, qui est celui de l'Algérie, en fait, de Tocqueville écrivant sur l'Algérie. Lorsque vous faites lire les textes de Tocqueville à des étudiants, il y a toujours un moment où ils vous disent, mais à la fin, ils vous disent, mais c'est le même, en fait, qui a écrit sur la démocratie. On n'avait pas compris que c'était le même. Les textes sont d'apparence si différentes qu'on a du mal à croire que de la démocratie en Amérique, c'est le même que ses écrits sur l'Algérie. Où en gros, il considère qu'il faut utiliser quand même les méthodes les plus vicieuses pour assurer la possession de l'Algérie par la France, y compris brûler des récoltes, brûler des villages, enfin des choses tout à fait charmantes, et qu'il y a donc quelque chose qui n'est pas vu du tout et que parfois on manque encore aujourd'hui, qui est dans la comparaison de la Révolution américaine et de la Révolution française, à quel point elles sont différentes. Parce que la révolution américaine est une révolution coloniale. C'est intéressant, au moment de l'indépendance de l'Algérie, un des messages de sympathie qui intervient, ou même peu avant l'indépendance, c'est un message du président Kennedy qui fait le parallèle entre révolution américaine et révolution algérienne, comme si en réalité elles n'étaient pas le contraire l'une de l'autre, une indépendance au profit des colons dans un cas, et une indépendance au profit de l'ancienne population colonisée dans un autre. Après, la question que vous posiez sur la temporalité, elle est vraiment importante. Quelque part, là où il y a vraiment quelque chose à apprendre de la Révolution française, c'est de savoir que c'est bien difficile de dire jusqu'à quand elle s'étire, et est-ce qu'on peut englober ces événements dans un même processus révolutionnaire. On va avoir évidemment la même difficulté avec l'Algérie, de savoir est-ce que, par exemple, après l'indépendance de 62, le coup d'État du colonel Boumédienne en 1965, est-ce qu'on est encore dans quelque chose de révolutionnaire. Lui-même affirme qu'il est dans la correction révolutionnaire, et de fait, alors qu'il n'y a pas de peuple dans les premiers mois, il réussit à regagner de l'enthousiasme avec des événements très impressionnants, la jeunesse qui participe à sa révolution agraire, 1962, le festival panafricain de la culture, où il y a une expérience de la foule, de la culture, de la musique, du chant, une expérience d'être africain qui peut se faire dans les rues d'Alger. Mais au fond, on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui et s'interroger sur le Hirak de 2019. Qu'est-il par rapport à la révolution de 54-62? Est-il une sorte de prolongement, de résurgence? Est-ce qu'on est obligé aussi de croire les discours des acteurs, hein, qui s'en revendiquent ou s'en écartent? Mais là, pour le coup, il y a tout un travail d'historien pour remettre en série ces événements et discuter de leur connexion ou de leur absolue différence.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de connexion évidente. On peut en discuter. Chloé Drieux, c'est vrai que pour l'année 1917, on apprend bien souvent à l'école qu'on a en février une révolution bourgeoise suivie en octobre de la révolution, etc., les bolcheviks. Mais en donnant un regard déjà sur une géographie plus large et une autre temporalité, eh bien, on a toute une nouvelle lecture de ces phénomènes-là.
Oui, oui, c'est vrai que la révolution de février est encore une fois très importante parce que c'est la fin du régime colonial et ça c'est un espoir vraiment pour les populations locales qui bénéficiaient d'un statut d'allogène, c'est-à-dire de citoyen en quelque sorte ou de sujet de seconde zone. Donc la révolution de février déclenche une citoyenneté commune et globale, mais vraiment dans le cas de l'Asie centrale et puis du Caucase également, ces espoirs sont très vite déçus, notamment parce que les soviets qui sont créés donc en Asie centrale à Tachkent sont investis par les anciens colons de peuplement, et c'est ce qu'on appelle une révolution coloniale puisque ces populations coloniales donc réinvestissent ces nouvelles structures de pouvoir au détriment donc des populations locales qui ne peuvent s'investir complètement dans les nouveaux organes de pouvoir.
Oui, parce que pour la révolution, c'est vrai qu'il y a des tangentes classiques. La violence, on l'a dit, et dans l'histoire globale des révolutions, c'est vrai que la violence est évoquée avec Sophie Vanis ou Jean-Clément Martin pour la terreur, avec des guillemets, mais la terreur, c'est la révolution. Et puis, il y a la déception ou la confiscation de la révolution. En tout cas, il y a des grilles de lecture qui s'appliquent très facilement sur les mouvements révolutionnaires. Ludivine Bantigny, on le voit vraiment ça. C'est-à-dire que... on applique ces grilles de lecture sur des mouvements qui, en fait, sont très divers. Alors, est-ce que c'est intéressant de le faire? Oui, tout est toujours intéressant à faire. Mais est-ce que ça nous permet de mieux comprendre ces mouvements-là?
Alors, je ne sais pas s'il s'agit de grilles de lecture, parce que ce qu'on veut montrer grâce à, tout simplement, à l'archive révolutionnaire et à l'enquête historique sur l'ensemble de ces processus révolutionnaires, c'est qu'il n'y a pas de schéma tout fait, justement. Hein. Donc, il n'y a pas de modèle qui serait applicable pour chacun de ces événements révolutionnaires. Mais disons que, forcément, à partir du moment où il y a révolution, il y a le renversement d'un ordre établi, il y a donc des intérêts d'un pouvoir en place qui sont détruits, et dès lors une volonté se retrouver quand même au pouvoir à nouveau. Donc il y a un processus comme ça, non seulement de protagonisme, mais d'antagonisme. Et donc ce qu'on a voulu aussi distinguer, et bien sûr que la question de la violence en révolution est fondamentale et on y consacre de nombreuses pages, c'est distinguer donc une violence en situation révolutionnaire et une violence révolutionnaire, parce que la violence n'est pas intrinsèque à la révolution. D'ailleurs, nous montrons et nous analysons des révolutions qui se sont faites sans verser une goutte de sang. Alors, je pourrais citer l'exemple très bien analysé par Victor Pereira de la révolution des œillets au Portugal en 1974, qui est une révolution assez spectaculaire du point de vue de cet entremêlement entre, d'une part, une armée qui se veut en lutte contre un régime dictatorial et colonial, hein, celui donc du Portugal de Saint-Lazare, et d'autre part une très puissante auto-organisation populaire. Et ça nous semble très important dans ces processus révolutionnaires. Chloé Drieux vient de le rappeler avec la question des soviets. Les soviets, alors avec plus ou moins de réussite, mais y compris depuis 1905 en Russie, on parlait de remettre ces processus dans des séries. C'est une forme de démocratie populaire radicale absolument extraordinaire aussi, au vu de ce que pouvait être, par exemple, la Russie de cette époque. Donc, voilà, une révolution qui se fait au détriment d'intérêts et qui vient du coup enclencher des processus qui peuvent être ou non violents. On cite une autre révolution qui nous est moins bien connue, mais qui nous semble important là aussi d'évoquer avec précision, c'est celle des Philippines en 1986. Voilà, là aussi très puissante auto-organisation populaire et pas une goutte de sang versée. Donc on veut briser avec les mythes de la destinée, les mythes de un peu la téléologie. Voilà, ça se passe nécessairement de cette façon et ça se finit mal. D'abord, on veut aussi tout simplement souligner que finalement, cette histoire révolutionnaire, elle est porteuse de droits humains, de droits universels, de justice et d'émancipation. Et donc, nous sommes en quelque sorte les héritiers de cette histoire. Et encore une fois, qu'il n'y a pas d'inéluctabilité à la violence ou au retournement de situation contre-révolutionnaire, même si ces processus-là, nous essayons et nous nous efforçons vraiment de les analyser avec beaucoup de soin.
Ah oui, bah c'est une étude détaillée mais extrêmement pertinente parce que on comprend les choses, on comprend en démontant cette idée de révolution au singulier combien le mot révolution au pluriel prend tout son sens et là le vocabulaire devient éclairant sur cette idée par exemple de violence. Quentin Delormoz, vous avez étudié le printemps des peuples ou les printemps des peuples 1848, mais vous avez également étudié la Commune. On a ici, ne serait-ce que par le vocabulaire, dire printemps, c'était pas dire pareil que dire révolution. Dans printemps, il y a quelque chose de beaucoup plus frais qui peut dissimuler aussi la violence.
Oui, vous avez raison. C'est en fait, pour reprendre la question des modèles, quand on analyse une révolution, on va analyser le vocabulaire que les acteurs utilisent pour parler d'eux-mêmes. Printemps, aube, élan. Et puis après, il y a tous ces modèles analytiques qui nous sont légués, avec lesquels on est quand même obligé de faire. On ne pense jamais à partir de rien. Donc cette opposition entre la révolution américaine, la révolution française, le modèle russe, etc. Nous, notre idée, c'était de l'aider. Quand on dit nous, il faut intégrer Eugenia Paliraki, Laurent Jean-Pierre, Boris Gobi. On a été 5 à construire ce processus-là et cette réflexion, elle est réellement collective à tous les sens du terme, y compris dans la direction. Mais donc du coup, c'est une tension entre ces modèles hérités, la compréhension de ce que disent les acteurs, qui va permettre d'apporter de nouvelles connaissances. Et dans le cas du printemps des peuples, c'est assez intéressant parce que le printemps, c'est à la fois l'élan et un peu l'idée de jeunesse, d'inachèvement. C'est pas très sérieux un petit peu. Hein, les révolutions sérieuses, si je reprends ces modèles, c'est celles qui arrivent après la Commune, justement, celles qui s'appuient sur une avant-garde, sur une idéologie plus structurée, etc. Tout le travail des historiens consiste à montrer qu'en réalité, les révolutions de 1848, d'une part, sont très diverses. Ensuite, elles sont globales, hein. C'est quand même pour la France l'abolition de l'esclavage, donc il y a une résonance aux Caraïbes qui elle-même va avoir une résonance autour qui est extrêmement importante, et qu'on a affaire à des gens qui sont très mûrs, qui ont des conceptions de ce que doit être une vie juste, qui sont extrêmement élaborées, simplement, elles sont tournées un peu différemment de celles qu'on a pu imaginer après. Donc le rôle de l'historien, c'est de retrouver ce mouvement-là. Pour terminer sur cette histoire des modèles, c'est quand même très important. C'est juste pour redonner un petit peu l'idée du livre, en fait. Quand on parle de révolution, on a la Révolution française en France, mais en gros, dans l'esprit de tout le monde, on a 4 révolutions. On a la Révolution américaine, la Révolution française, la russe, la chinoise. Et cette idée qu'au fond, tout ça s'arrête en 1989. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a eu des mouvements révolutionnaires en Syrie, en Libye, on a eu le printemps arabe, on a eu des mouvements à Hong Kong, on a eu le mouvement en Cuba. Bref, ça ne s'est pas arrêté et ces mouvements sont à l'extérieur du champ, enfin ne concernent pas que le champ européen. D'où l'idée du livre, en fait. C'est qu'il fallait ouvrir le regard ou accueillir plus de disciplines pour repenser cette histoire dont on est les héritiers, avec laquelle on continue de penser le monde contemporain, mais probablement... Ces modèles-là ne nous aident pas à comprendre ce qui est en train de se jouer, d'où l'intérêt de faire un retour à une histoire globale, mais aussi au plus près des acteurs et des actrices de l'époque.
Avec ce vocabulaire, on l'évoquait, printemps, avec cette actualité, les printemps arabes, Malik Haral, c'est vrai que le choix de ce mot de printemps est très intéressant, c'est significatif sur alors ce qui se passe, mais aussi le regard porté sur ce qui se passe.
Tout à fait, vous avez des discussions autour des mots qui sont vraiment intéressantes. Donc le printemps arabe a surgi avec cette comparaison rapide avec l'Europe du 19e siècle. Et en même temps, par exemple, entre Tunisie et Algérie, c'est intéressant de voir comment les mots n'ont pas le même sens. Les Tunisiens disent très volontiers la révolution. Hein, 2011, pour eux, c'est la révolution, c'est un terme courant. Pour les Algériens voisins qui ont regardé ce phénomène, des printemps arabes avec un œil complètement extérieur puisqu'ils n'en étaient pas partie prenante, à côté de leur propre révolution, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte ou ailleurs est quand même très léger, c'est pas de la vraie révolution, donc on a quelque chose voilà d'un algérocentrisme intéressant. Et puis lorsqu'en 2019 est intervenu en Algérie le mouvement du Hirak, on a vu apparaître notamment dans la presse française, mais je pense aussi chez certains de la classe moyenne supérieure ou de la bourgeoisie poésie algéroise l'expression de révolution du sourire, qui au contraire en a hérissé d'autres, parce qu'alors là, pour le coup, c'est le summum de la vacuité et de la légèreté, ce qui leur apparaissait complètement le contraire de ce qu'ils avaient l'impression d'être en train de réaliser dans la rue. Donc c'est vrai qu'on a une lutte aussi dans les termes pour qualifier, augmenter, réduire ou comparer les phénomènes entre eux, qui sont une autre façon finalement de faire circuler d'un mouvement à un autre.
Voilà, la vraie révolution, en tout cas, c'est celle de Nina Simone.
Of all the evil that will have to end.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Nina Simone, Révolution dans le cours de l'histoire sur France Culture, en direct des rendez-vous de l'histoire à Blois. Une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Julien Girard, Martin Guénard, Julien Calvas et Franck Malabry. Merci vivement à toutes les équipes techniques de Radio France, sans qui nous ne serons rien. Et aujourd'hui, nous réfléchissons à cette histoire globale des révolutions. Histoire globale des révolutions, ouvrage collectif publié à la Découverte. Réfléchir à ce mot de révolution, c'est réfléchir au temps. Ça, c'est une chose certaine. C'est réfléchir au regard porté sur le passé. Qu'est-ce que ces révolutions ? Et c'est aussi réfléchir à nos peurs. La révolution fait peur. Quand on dit révolution, c'est un changement. Et bien souvent, le changement nous angoisse. Ou la révolution attire parce que l'on a envie de changer. Dites-nous, dans cette histoire-là, Chloé Drieux, le mot de violence apparaît très nettement. Et dans ce que vous avez particulièrement étudié pour 1917, mais avec un regard aussi plus large, obligatoirement, sinon ce ne serait pas global. C'est quoi votre réflexion sur cette idée de violence ?
Je pense qu'il faut bien prendre en compte que la zone du Caucase est une zone de front dès 1914, alors que l'Asie centrale n'est pas une zone de front, c'est une zone d'arrière-front. Donc déjà, il y a deux contextes qui sont de violence qui sont différents, une violence de guerre et puis une violence d'arrière-front qui existe malgré tout. Et je renvoie à un ouvrage qui est très intéressant, qui s'appelle « Yashka, journal d'une combattante », où en fait, elle explique l'effet de la révolution de février sur le front. Et en fait, c'est un temps mort, c'est-à-dire un moment de suspension. Donc pour rebondir sur quoi parlait Ludivine, de ce moment de suspension et de non-violence, c'est quelque chose de très, très, très saisissant, en fait, à la lecture, où il n'y a plus de violence parce qu'il y a des soviets dans l'armée et que les soldats ne veulent plus combattre. Donc ça donne un peu une autre vision de cette violence. Et puis dans le cadre soviétique, bon, c'est le long début d'un long continuum de violence jusqu'aux purges de 37-38.
C'est vrai que nous parlons de l'armée, enfin en tout cas des forces au service du pouvoir, Ludivine Pontigny. C'est quand même un élément à mettre en place dans cette idée de révolution. On a parlé d'un mouvement populaire, du peuple qui prend conscience, ou de l'individu qui prend conscience de sa place dans une histoire plus large. Mais c'est vrai que le choix fait par l'armée ou par les forces de l'ordre de rejoindre ou pas le mouvement, c'est aussi une ligne qui nous permet de voir les chemins que peuvent prendre certaines révolutions.
Oui, c'est vrai que ça renvoie de toute façon à l'état même de la violence structurelle à laquelle les protagonistes révolutionnaires vont s'opposer, parce que c'est aussi à ça qu'il faut penser. Il y a une révolution qu'on n'a pas encore citée, sauf erreur de ma part, c'est la révolution haïtienne à partir de 1791, qui est une révolution absolument extraordinaire. Elle est menée par des esclaves ou des esclaves affranchis, et elle abat un système qui est d'une violence meurtrière presque sans égale. Et donc, dans ce genre de circonstances, évidemment que la question des forces de l'ordre et de la répression est décisive. Alors, l'enjeu de la fraternisation ou non est tout à fait crucial dans ce genre de circonstances. Quentin et moi, nous sommes passionnés par pour la Commune de Paris en 1871. Elle a déjà été mentionnée tout à l'heure. Il y a quand même ce moment, certes exceptionnel, mais du 18 mars 1871, quand en fait, une partie de ce peuple de Paris qui n'en peut plus de l'état dans lequel se trouve la ville, réduite à la famine et à la misère, se dresse contre les troupes envoyées par Thiers, et il y a fraternisation. Et les soldats, décident de mettre crosse en l'air après avoir été interpellés, comme ça avait été le cas en 1848, par ces femmes et ces hommes du peuple qui leur disent « Mais vous n'allez pas tirer sur vos frères, sur vos sœurs, sur voilà ce que nous sommes, faisant fraternité et faisant peuple, justement. » Et là, hein, pour rejoindre ce que disait Quentin tout à l'heure, il y a une sorte de sédimentation historique qui se produit, une sorte de réactivation et d'actualisation du passé encore présent, celui de 1848, où il y avait eu aussi des fraternisations en février 1848. Et donc là, oui, bien sûr qu'il y a un enjeu décisif. Et tout au long de cette révolution populaire qui a été la Commune de Paris, il y a eu quand même un espoir que ce type de fraternisation se poursuive. Et malheureusement, pour les femmes et les hommes de la Commune, ça n'a pas été le cas. On sait que ça s'est terminé par un massacre terrible entre 10 000 et 20 000 morts. Mais donc, on citait la révolution des œillets au Portugal. On pourrait aussi citer le Mozambique, l'Angola, parce qu'encore une fois, voilà, il faut vraiment se déplacer pour comprendre à la fois la diversité des situations et montrer aussi que, à certains moments, oui, il y a des forces, une partie des forces armées, y compris tout simplement du contingent, du contingent au sens des soldats qui ne sont pas forcément des professionnels de l'armée de métier, décident de basculer dans le camp du peuple qui se soulève contre un régime jugé injuste et insupportable.
Quant à de l'Armouz.
Oui, cette question de la violence, elle est absolument majeure, puisque c'est une des idées à laquelle on associe immédiatement la révolution. Alors ça a été dit, déjà, il faut rappeler que souvent les révolutions s'inscrivent dans un contexte de guerre, s'accompagnent de guerres civiles, elles sont jamais seules en réalité en jeu. Mais l'idée d'associer la violence à la révolution, au fond, elle est traitée directement dans l'ouvrage. Il faut quand même rappeler 2 millions de morts pour la révolution culturelle chinoise, 750 000 morts pour les procès de Moscou, les chiffres sont grossis. Et cette violence, elle est analysée en tant que telle. En revanche, c'est ce qu'on disait aussi, il y a des révolutions sans violence. 1848, avec la terreur en tête, essaye interdit les peines de mort pour motifs politiques, pour éviter justement qu'une autre violence révolutionnaire se déploie. Donc les révolutions discutent entre elles autour de cette question de la violence. Mais Jean-Clément Martin et Boris Gobin, parce que c'est lui qui a fait le texte sur la violence, se sont quand même emparés du sujet réellement en proposant de passer de ce qu'on appelle la violence révolutionnaire à la violence en révolution. La violence révolutionnaire, c'est l'idée selon laquelle, au fond, par essence, la révolution serait violente. La violence en révolution, c'est l'exercice de la violence en situation révolutionnaire. Et par exemple, souvent, on prend les massacres de septembre de 1792 avec cette princesse de Lamballe qui se fait tuer, ranimer, retuer comme une trace de l'extraordinaire cruauté au fond de la Révolution française. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que ces gestes-là sont pas propres à la Révolution française. Ils sont antérieurs. C'est la reprise de formes de cruauté qui datent plutôt du XVIe siècle, enfin du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Le changement de la Révolution française, c'est qu'elle le politise, elle lui donne un autre sens. De la même manière, Boris Gobi a proposé au fond d'établir des formes de mécanismes qui vont dans un plus ou moins fort degré de violence. Si le groupe révolutionnaire est isolé, si la violence de l'État contre lui est plus grande, si l'idéologie plus totalisante que libertaire, tout ça, ce sont autant de conditions qui vont avoir tendance à accentuer l'exercice de la violence en révolution, sachant qu'à, comme disait Ludivine, à aucun moment, ces enchaînements-là ne sont nécessaires.
Et puis pour le retour à l'ordre, on peut compter sur mon général.
Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie.
Et oui, c'est ça, hein, le général de Gaulle en 1968. Chloé Drieux, le moment révolutionnaire ne peut être compris que sur le temps long, au sens où, quand on est plongé dedans, la notion même de révolution est beaucoup plus complexe. On est sur de l'événement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai que là, le regard de l'historien, de l'historienne, fait la révolution, enfin, ou en tout cas analyse le phénomène et arrive à comprendre les mots utilisés pour le décrire.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, les situations révolutionnaires à analyser me semblent très compliquées parce qu'elles sont très versatiles. Il y a toujours de nouvelles structures, de nouveaux comités qui se créent avec un vocabulaire qui est différent selon les acteurs. Et il faut presque faire une radiographie à la semaine, en fait, pour comprendre exactement la situation de révolutionnaire. Il y a plus de routine d'État, il y a plus de routine administrative. C'est vrai que c'est assez déstabilisant, en fait, aussi de travailler à partir de ces archives sur une situation révolutionnaire très, 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 très courte dans le temps.
Ah, mais c'est vrai qu'on le voit pour la Révolution française ou pour la Commune, hein, la chronologie est très fine et très serrée. Alors c'est passionnant, hein, mais on a ici comme une concentration de la temporalité. La Révolution, Ludivine Bantini, c'est ça aussi. C'est tout va très vite avec de nouveaux protagonistes. On ne les connaissait pas, ils surgissent soudain.
Oui, c'est vrai, et en même temps, ces temporalités sont elles-mêmes sédimentées et entremêlées. Par exemple, pour le cas de la Commune de Paris, elle est précédée d'une longue phase de conflictualité. D'une part, il y a des grèves importantes à la fin des années 1860, et surtout, d'autre part, elle est précédée par une très forte auto-activité populaire, par des formes de coopératives, de caisses de secours, de chambres syndicales, sociétés de secours mutuelles, autant de formes d'auto-organisation qui vont être ensuite défendues, soutenues, promues par la Commune de Paris, mais qui lui préexistent et qui permettent, alors le terme n'existe pas, hein, donc il est anachronique, mais qui permettent une forme d'autogestion, y compris du point de vue social et économique. Donc, en fait, on peut considérer que, certes, les événements révolutionnaires sont des surgissements, sont des irruptions. On évoquait 1968 au travers du général de Gaulle. Ça me faisait penser à ce que disait le philosophe Henri Lefebvre à propos de ce moment 68. Il disait « le temps ravivé scintille ». Voilà, le temps ravivé scintille, comme s'il y avait, oui, dans la temporalité révolutionnaire, une sorte de joie à sentir qu'on fait l'histoire, une sorte de puissance d'agir, mais en même temps, tout ça s'inscrit dans, parfois, des révolutions anthropologiques, des révolutions qui modifient, qui métamorphosent les structures sociales, culturelles, ce qui fait que, on a parlé de Tocqueville tout à l'heure, mais on pourrait même citer Chateaubriand, qui disait notamment que lorsque la révolution de 1789 a éclaté, elle était déjà faite. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est qu'il y avait une sorte de révolution socio-économique qui avait modifié les structures du pouvoir social avec l'importance prise par la bourgeoisie et que dès lors l'événement révolutionnaire est venu en quelque sorte confirmer cette modification structurelle.
Et dans ce moment révolutionnaire, il y a évidemment de l'émotion. Malik Haral, Algérie 1962, une histoire populaire que vous avez publiée à la Découverte et qui a reçu le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2022. Encore bravo. Mais c'est ça, c'est un regard aussi que vous pouvez porter sur la sensibilité, travail d'historienne sur l'émotion. Le moment révolutionnaire est un moment où l'émotion est exacerbée, très présente et se manifeste.
Oui, pour revenir à ce que vous disiez sur le rythme, les événements, il y a quelque chose qui rend ces révolutions, par exemple, difficiles à enseigner, parce que précisément, il faut avoir une très grande maîtrise des événements pour ensuite comprendre ce que ces événements font aux acteurs. Moi, une des questions que je m'étais posée, c'est qu'est-ce que le rythme des événements fait aux gens? C'est-à-dire, est-ce que quand moi je dessine une chronologie et qu'il y a 38 entrées pour un seul jour, Est-ce que ça change les choses pour les gens qui ont vécu l'événement? Et mon impression à la fin de ce travail, c'était que il y a effectivement une sensation de la part des acteurs qui confine à la fois à l'enthousiasme, à l'effervescence, à la joie, mais aussi à quelque chose de l'ordre de la fatigue, que les événements ne cessent de nous frapper de gauche, de droite, qu'on est toujours dans l'incertitude et qu'on passe du coup aussi son temps à réimaginer son futur. C'est-à-dire chaque événement, on pense que ça va marcher, on pense que ça va pas marcher, on pense qu'on va y arriver, on va obtenir l'indépendance, non, on va pas y arriver, ils vont prendre le pouvoir, ils vont pas prendre le pouvoir. On passe son temps à se réimaginer et il y a, au sortir des moments révolutionnaires les plus intenses, aussi une sorte de presque fatigue mentale de la part de ceux qui les ont vécus et l'impression d'avoir été vraiment extrêmement ballottés dans des événements qui les dépassent.
Chloé Drieux, je vous vois faire oui de la tête parce que non mais c'est vraiment ça. La stabilité dans l'existence est quelque chose aussi parfois de rassurant, de se projeter dans un avenir serein. Or, le mouvement révolutionnaire est un mouvement qui est porteur d'un futur meilleur, mais aussi d'incertitude.
Oui, et puis c'est vrai que, en tout cas pour l'Asie centrale et le Caucase, les vues sont vraiment à très court terme et que le point essentiel, c'est une lutte pour la vie ou pour la survie, de savoir comment on va s'alimenter, comment on va réussir enfin, l'alimentation et l'eau, en fait, sont les éléments absolument fondamentaux parce que c'est une situation donc révolutionnaire. Dans une guerre mondiale qui a déstructuré complètement l'économie et les cultures et l'agriculture. Donc il y a vraiment cette notion de lutte pour la vie ou la survie qui en quelque sorte vient qui est contre-productive par rapport à des idéaux politiques d'indépendance et d'autonomie et de futur. C'est-à-dire que le futur est trop lointain et le lendemain est déjà trop lointain pour dans une situation révolutionnaire.
Oui, parce que c'est une histoire incarnée. L'être humain, il mange, il boit, il a besoin de se chauffer et de s'abriter aussi. Mais c'est vrai que ce moment révolutionnaire est un moment très particulier, Quentin de Lermoz.
Oui, mais c'est vrai que c'est important de rappeler ces éléments économiques, alimentaires, de survie. C'est pour ça que la dernière partie du livre s'appelle « Défi, élan, entrave hein, », pour bien montrer qu'à chaque fois, il y a un va-et-vient entre les nécessités du moment et les espoirs. Mais je voulais revenir sur la citation de Gaulle tout à l'heure. C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est « chacun a sa place hein, ». Les étudiants travaillent, enfin les étudiants étudient, les travailleurs travaillent, etc. Or, la révolution, c'est peut-être justement ça, c'est que personne n'est à sa place. En gros... on va essayer de faire en sorte que dans l'éducation, la dimension intellectuelle et manuelle soit prise à part égale, que les femmes puissent prendre leur part du pouvoir là où elles l'ont pas normalement, que les sans-grades puissent commander, etc., etc. Donc c'est précisément sur ce mouvement des places que probablement se fait la révolution, ce qui fait à la fois peur, mais ce qui a aussi ce caractère exaltant, et l'émotion en fait partie, c'est-à-dire c'est un moment où la contention habituelle dans laquelle on se place pour vivre en société éclate, donc ça va donner soit lieu à des enthousiasmes très forts, faut rappeler aussi que l'émotion est liée à des valeurs morales, hein, la question de la dignité, la question de la justice, elle est aussi liée à des phénomènes de peur qui vont pouvoir s'accentuer dans des formes d'opposition, et puis ce qu'a évoqué tout à l'heure Malika et Chloé, il y a la question de la fatigue, il y a une fatigue nerveuse, physique, qui va de pair avec les enthousiasmes. Donc la révolution, c'est aussi un moment où, au fond, ce qui était en place, ce que le philosophe Jacques Rancière appelle le partage du sensible, ne va plus de soi, ce qui ouvre l'espace des possibles, créant pour certains de la peur, pour l'autre, au contraire, un immense espoir. Alors, c'est court, mais comme il y a toute cette histoire des révolutions avant, ce moment se charge tout de suite de cette mémoire révolutionnaire, et en réalité, les acteurs ont quand même l'impression d'être porteurs d'une histoire très longue. C'est un peu le paradoxe, hein, ce qu'on appelle les discontinuités en histoire. Le moment court réveille des temporalités latentes et enfouies. Et c'est ça qui fait que c'est un événement qui est un moment qui est aussi compliqué à analyser correctement, parce que nos propres catégories d'historiens butent contre la complexité du mouvement.
Et c'est aussi pourquoi, dans cette histoire globale des révolutions publiée à La Découverte, c'est une histoire sur le temps très long, parce que vous partez des préhistoires, hein, avec Jean-Paul Demoule qui réfléchit à cette idée de révolution dans le passé, et puis on traverse les mondes grecs, l'Antiquité, mais il y a un effet Ludivine Bantini, pour terminer, générationnel, on le sent bien, c'est-à-dire que ces révolutions du passé ne sont pas oubliées. Pendant la Commune en 1871, ce qui s'est passé en 1848 n'est pas oublié, et même d'autres mouvements qui ne sont pas révolutionnaires mais dans l'ère de la révolution, tout ça est porteur et c'est ce qui construit les révolutions à venir. Elles ne sont jamais séparées les unes des autres.
Absolument, ce qui était passionnant dans cette enquête historique, c'est de montrer, encore une fois, cette historicité au sens d'une conscience historique, vraiment une conscience de faire l'histoire, et de renouer la chaîne des temps. Alors en effet, c'est Louis XVIII qui le disait, mais en fait l'expression est tellement belle qu'on peut la lui emprunter brièvement. Renouer la chaîne des temps, ça a été en effet une obsession des révolutionnaires, et encore une fois, pas par fétichisme, pas par mimétisme, mais pour se donner du courage, pour se donner de l'espoir, de l'enthousiasme. Et par rapport à ce que vous disiez d'ailleurs, Xavier, sur le fait que dans les situations révolutionnaires, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertitudes, parce que c'est instable. Et moi, j'ai l'impression que nos sociétés vivent justement dans une grande angoisse de l'avenir. Donc, c'est pas du tout spécifique aux situations révolutionnaires. Et que, puisqu'on parle d'historicité et de continuité historique, avec des ruptures, bien évidemment, et de sédimentation des temps, sans vouloir être prophète, hein, nous restons historiennes et historiens, et avec d'autres disciplines, comme l'a rappelé Quentin tout à l'heure, en fait, on peut se dire que ces révolutions ne sont pas finies. Justement, ce que voulait dire Tocqueville, c'est, voilà, ça y est, les révolutions sont terminées. C'est aussi ce que nous avait dit François Furet bien plus tard, en 1978, la révolution est finie. C'est un peu l'obsession de celles et ceux qui ne veulent pas voir se modifier l'ordre établi. Et donc, on peut considérer que, étant donné la violence un peu structurelle en cours, eh bien, des processus révolutionnaires ne pourront que se poursuivre dans l'avenir.
Renouer la chaîne des temps, Louis XVIII, cité par Ludivine Vantini. Oui, ah bah, rien que ça, c'est révolutionnaire.
J'aime beaucoup cette
formule. Merci vivement à tous les quatre, Quentin Delhermoz, Ludivine Vantini, Malik Aral et Chloé Drieux. Une histoire globale des révolutions, c'est publié par La Découverte, et dans le cours de l'histoire, notre petite révolution quotidienne. Mais c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
Comment Thérèse Josien Poulain est-elle devenue archéozoologue? Les études archéozoologiques sont menées sur des sites qui portent les traces d'activités humaines, mais elles tiennent compte aussi de l'ensemble des ossements d'animaux retrouvés lors des fouilles. Bien que ces ossements aient été très nombreux sur les sites archéologiques, jusqu'à la fin des années 1950, aucun spécialiste n'avait entrepris de les analyser sérieusement. Tout un pan de l'histoire des populations préhistoriques échappait ainsi à la science, car aucun chercheur ne s'intéressait vraiment aux relations naturelles et culturelles entre les humains et les animaux. La thèse que Thérèse Josien Poulain a soutenue en 1964 est considérée comme un travail précurseur dans ce domaine. Elle fut la première, en effet, à étudier l'histoire de la domestication des animaux sur une période longue de 10 000 ans, ce qui l'a amené à s'intéresser aux premières formes d'élevage dans ce processus. Au cours de ses études d'histoire et géographie à la Faculté des Lettres de Paris, Thérèse Josien avait suivi, en tant qu'auditrice libre au Musée de l'Homme, les cours de l'ethnologue et préhistorien André Leroy-Gourhan. Ce dernier marqua l'histoire de sa discipline car il inaugura de nouvelles méthodes de fouille et d'analyse des vestiges. Il fonda ainsi une école de préhistoire que Thérèse Josien rejoignit avec enthousiasme. En 1951, elle participa aux fouilles archéologiques que Leroy-Gourhan dirigeait à Arcy-sur-Cure, dans l'Yonne. C'est là qu'elle rencontra l'un des proches collaborateurs de Leroy-Gourhan, Pierre Poulain, qui devint conservateur du musée d'Avallon. Après leur mariage, Thérèse Josien Poulain suivit son époux dans cette petite ville de Lyon, située à près de 200 km du Musée de l'Homme, là où se trouvait son laboratoire, ses collègues et les étudiants qu'elle avait commencé à former. Thérèse se retrouva ainsi dans la situation qu'ont connue beaucoup de femmes de cette époque. Le statut d'épouse ayant contribué en effet à la sous-reconnaissance des contributions que les chercheuses, les assistantes ou les techniciennes ont fournies à la science. Malgré son isolement géographique, son implication considérable pour seconder son époux au musée d'Avallon et l'éducation de ses quatre enfants, Thérèse Josien Poulain a obtenu un poste de chargée de recherche au CNRS en 1967. Sa passion pour la science l'a incité à imaginer des solutions lui permettant de concilier vie familiale et activité professionnelle. C'est ainsi qu'elle transforma son domicile en y installant une bibliothèque, une collection inédite d'ossements de référence, ainsi que de multiples zones de stockage et plusieurs espaces de travail. avec près de 700 000 ossements répertoriés, et l'a examiné sur la table de son salon l'équivalent de plus de 40 000 animaux. Entre les années 1950 et 2000, un volume colossal de vestiges provenant de plus de 600 sites archéologiques a pu être ainsi conservé au domicile familial de Thérèse Josien-Poulain. Bien qu'elle ait été entravée dans sa carrière scientifique, les recherches de Thérèse Poulain ont donc largement contribué à la reconnaissance progressive de l'archéozoologie en tant que discipline scientifique à part entière.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois. Merci vivement au public. Émission préparée par une équipe formidable pour qui c'est. Rendez-vous avec l'histoire tous les jours. Jeanne Delecroix, Toscane Boudet, Jeanne Clopper, Raphaël Lalou, Mayou Nguizhou. Merci à Lina, l'Institut National de l'Audiovisuel, aux équipes Radio France, Virginie Well à la com. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.